Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois une autre membre de la grande famille du Rouge et Or, Jessie Lacourse, qui vient tout juste de terminer sa carrière universitaire. C'est une coureuse, en fait, bien que son nom l'indique, c'est pas, c'est une pure coïncidence. mais Jessie qui est venue nous parler, en fait, de tout son parcours. Mais spécifiquement d'entraînement, de course à pied, je voulais comprendre un petit peu comment ça fonctionnait une saison pour une athlète d'athlétisme, en fait, parce que, comme vous allez l'entendre, la saison est divisée comme en trois. Il y a le cross-country qui commence la saison. Ensuite, on a la saison de course intérieure sur piste de 200 mètres à l'intérieur et finalement la saison extérieure. Fait que je voulais voir comment son training et sa planification d'entraînement à l'année fonctionnaient dans ces différentes périodes-là. Jessie, qui est une coureuse émérite, qui a fait plusieurs records du Québec, qui est une fille qui a fait rayonner l'Université Laval à travers le pays, à travers le monde entier, puis qui est une fille qui va être à surveiller pour toutes les compétitions, équipe nationale, championnat du monde et, évidemment, on l'espère, les Olympiques. Donc, je la remercie beaucoup de son temps. Le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de sport, de suppléments de sport d'endurance. À l'heure où vous nous écoutez, là, j'enregistre ces podcasts-là avant, mais je vous lance le scoop, OK? Il y a une nouvelle saveur de Upika Endurance Plus qui s'en vient. Donc, la formule avec 100 mg de caféine. C'est cerise lime, OK? On a fait des tests, plusieurs tests, pour développer la deuxième saveur du Upika Endurance parce qu'il y a le melon d'eau et là, celle-là. Et on est arrivé à cette saveur-là qui est un petit peu acidulé, mais pas trop. Un petit peu amer, mais pas trop. Un petit peu sucré, mais pas trop. Qui va vraiment jouer sur tous les secteurs de la langue et du palais. Et vous allez voir, c'est incroyable. Honnêtement, moi, je crois que c'est ma préférée. Je prêche pour ma paroisse. Je les aime tous, toutes. Mais celle-là est vraiment, vraiment sacoche. Puis, elle va être en pré-vente. Au moment où vous écoutez le podcast, la nouvelle saveur est en pré-vente. La livraison devrait se faire la première semaine de mai. Donc, la pré-vente va se terminer d'ici une semaine et demie, deux semaines, tout dépendant quand vous écoutez ça. Mais allez sur le site web upika.ca pour voir toutes les informations, en fait, à ce sujet-là. Et utilisez le code UPIKA-POD-2023 pour 10% de rabais sur votre prochaine commande. Puis en passant, qui dit pré-vente, dit rabais de pré-vente. Fait qu'il va avoir un 15% de rabais sur le sac de Upika Endurance Plus Cerise Lim. Fait que sautez là-dessus comment dire ça, Dom? Comme la lèpre sur le pauvre monde. Ça sonne moins hot un peu. Ça sonne moins hot, on va se le dire. Bref, allez voir ça. Puis je vous laisse avec cette conversation avec l'incroyable Jessie Lacourse. Good, ça roule. Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Ça commence de même.
C'est aussi
simple que ça. Continuons la discussion qu'on avait. Là, tu me demandais, dans le fond.
Oui, ben d'où t'es venue l'envie de commencer à courir puis de commencer tout seul, Upika, etc., etc. Là.
Ouais, dans le fond, j'ai couru. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à courir, dans le fond, parce que j'avais un genre d'opportunité d'affaires avec New Balance. Pour une affaire vraiment pas élite, là, c'était comme un truc avec Sport Expert, puis c'était des... Ils lançaient la gamme Fresh Foam, dans le fond, dans ce temps-là. Puis là, moi, ils voulaient pousser les Fresh Foam au grand public, dans le fond. Puis là, j'avais une tribune parce que j'avais fait Occupation Double avant. Fait que là, ils m'ont dit « Veux-tu essayer les Fresh Foam? » Puis là, j'ai fait « Oui, cool. » Sauf que j'avais comme une raison d'essayer les Fresh Foam. Fait que là, simultanément à ça, je me suis comme fait écrire par Je cours Québec, qui organisait le marathon à Québec. Puis c'était la première année où est-ce que le marathon était pas le marathon des Deux-Rives, dans le fond. Fait que là, ils voulaient comme
que j'aille montrer le parcours, que je parle de mon expérience au nouveau marathon. Je me rappelle pas comment il s'appelait dans ce temps-là. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais courir un marathon. T'sais, j'avais jamais couru là, de ma vie. Là. J'avais jamais couru de ma vie, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à courir.
C'est correct ça. Puis finalement, la piqûre t'est pognée pour vrai?
Ouais, parce que ça faisait longtemps que je m'étais amélioré, dans le fond. Tu sais, parce qu'en natation, quand je m'améliorais, tu le sais, c'est quoi, là, tu sais, quand t'es rendu à un niveau élite, même excellence, c'est comme les fractions de secondes sont dures à aller chercher, mm-hmm. puis comme en natation, c'était j'étais rendu là, tu sais, quand je faisais un best time, c'était une mini affaire, tu sais. Ouais. Puis là, quand j'ai couru le premier marathon, j'ai fait, il me semble que, tu sais, j'ai marché les ravitaux dans le dernier 10 kilos, là. Puis là, il me semble que je peux vraiment m'améliorer, tu sais, à ça. Puis comme de fait, tu sais, l'année d'après, j'ai passé de 3.37 à 3.15, puis là, j'ai fait « Oh, je me suis vraiment... » Genre, Chris, c'est le fun, tu sais, s'améliorer de même. Puis là, j'ai fait « Je vais en faire un autre. » Puis là, j'ai passé de 3.15 à 2.58. Puis là, j'ai fait « Man, c'est hot, tu sais. » Puis c'est comme ça. Genre, la piqûre m'a vraiment pogné à comme découvrir une nouvelle affaire, une nouvelle passion, dans le fond, un nouveau sport, en fait, au complet. Là, je connaissais pas ça pantoute. Là.
Ah, mais c'est cool, j'aime ça.
Ouais.
En plus, tu promouvais si bien le sport, là, donc écoute, pas demander mieux.
Ouais, exact. Puis j'essayais avec ma tribune, dans le fond, de justement, soit avec le podcast, soit avec ma propre tribune, de juste comme permettre à des gens qui trippent sur le sport d'avoir accès à des conversations comme on va avoir là, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. J'aime ça me rapproche du sport aussi, parce que j'ai fait un bon détour là après ma carrière de natation là.
Ouais, puis parce là c'est comme quasiment croisé, moi au début, ouais, toi à ta fin, ouais, là.
Ouais, ben en fait je veux commençons avec félicitations pour ta carrière universitaire.
Ben merci.
C'est terminé, je sais exactement comment tu te sens là d'avoir terminé ta carrière universitaire.
Ouais, pas mal nostalgique, hein.
Ouais, ça va vite, hein, comme ou quand tu commences, tu te dis, hey, 5 ans, c'est long. Puis là, la première chose que tu sais, c'est que c'est fini. Là.
Exact, exact. Non, c'est ça. C'est que ça a commencé en 2017. Ouais. J'ai eu le droit à une année-ish de pause avec la COVID. Là, fait que mes années universitaires rougeâtres sont étirées sur 6 ans, finalement. Ouais. Donc, ça a été une belle courte carrière, je trouve, parce que exactement 6 ans, ça passe vite. Là.
Ouais.
Donc, ouais.
Ouais. Puis, dans le fond, là, t'arrives des U-Sports.
Ouais.
De ce que j'en comprends, ça l'a pas été à tes attentes,
Non, pas. J'avais une inflammation des bronches là, qui a suivi après un rhume. Donc là, c'était vraiment triste, là, mais j'ai pas pu courir comme j'en ai l'habitude parce que je pouvais pas courir plus que qu'est-ce que mon corps pouvait me fournir. Ouais. Là, je veux dire, mes poumons étaient malades, là, je peux pas rien faire. Là.
Ouais. Puis j'imagine que, tu sais, dans les courses que toi tu fais, c'est quand même une zone où est-ce que les poumons, c'est la seule affaire que t'as besoin. Là. Ben, pas la seule affaire, mais comme c'est tellement important.
Ah, oh, ben oui, c'est sûr. Là, c'est un sport hyper cardiovasculaire. Fait que si les poumons, ils peuvent pas être à 100% là, ben même s'ils étaient là, je dis pas moi à 80%, ben là, le 20% d'extra, j'en avais besoin pour compétitionner, tu sais, à mon 100%. Puis ouais, ça a pas été suffisant pour que je sois capable de faire les courses que je voulais au U-Sports. Mais bon, j'ai eu... C'est triste, ça s'est terminé comme ça, mais il faut que je revoie l'ensemble de ma carrière universitaire, ben, parce qu'en réalité, je pense que c'est pas tant ces courses-là qui ont mal été que les gens vont se souvenir, c'est plus l'ensemble de l'œuvre.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, l'avantage quand même d'un circuit universitaire comme le circuit sport, c'est que au-delà de la performance individuelle, tu peux quand même avoir du fun puis prendre plaisir à être au championnat, tu sais, puis de prendre du plaisir à avoir le succès de tes partenaires.
Absolument.
D'entraînement. Tu sais.
Ouais, pour vrai, tu l'as tellement dit, là, voir mon ami Emma gagner aussi 100 mètres en faisant le record des U-Sports, ouais, c'était beau à voir.
C'était épique, ça. Ouais.
Vraiment, voir un triplé, encore aussi 100, des triplés québécois, c'était vraiment hot à voir. Puis il y a plein d'autres performances qui sont données au niveau québécois, de nos amis, de nos teammates. Fait que c'est le fun à voir, puis tu sais, c'est inspirant de voir que même si ça va pas nécessairement bien pour toi, ben ça va bien pour d'autres, puis il y a plein d'autres belles... Il y a plein d'autres choses qui arrivent, puis c'est fun d'être content pour les autres aussi, là.
Ouais. L'année avant, ben cette année, dans le fond, ça a vraiment été une grosse année pour toi.
Ouais.
Au niveau, tu sais, comme plusieurs records québécois qui sont tombés, puis comme c'était vraiment... Est-ce que t'es satisfait jusqu'à maintenant de ta saison?
Ben oui, mais c'est sûr que la saison indoor, ben intérieure, ça s'est bien passé. Là, comme tu l'as dit, une plusieurs records intérieurs.
C'est 1500, 3000...
3000, je l'ai fait l'an dernier.
Ouais.
Fait que 1500, mile, puis 5000.
OK, c'est ça.
Ouais, fait que tout dans ces distances-là...
Ouais.
Ouais, fait que ça c'est... ça
à l'intérieur, 5000 à l'intérieur...
Ouais, c'est beaucoup tôt.
Moi, je me suis planifié un time trial sur 5 km. Dans le fond, là, je m'entraîne pour le marathon d'Ottawa. Les gens qui écoutent le podcast, ils m'entendent dire ça à tous les podcasts. Là. Mais je m'entraîne pour le marathon d'Ottawa, puis dans le fond, pour l'hiver... Je voulais pas. Je voulais améliorer ma vitesse de base parce que. Ma vitesse de base, ma vitesse max, si on veut, pour être capable de me donner du jeu pour descendre mon pace marathon, mettons. Fait que je suis parti sur un bloc d'entraînement pour 5 km, mais un petit peu plus long, là, en gardant quand même pas mal de millage dans le but de repartir pour le marathon. Mais je regardais où est-ce que j'allais le faire parce que il y a l'anneau de glace ici.
Ouais.
Sauf que c'est vraiment frais, puis genre, moi, je fais de l'asthme, fait que j'ai fait 2-3 crises d'asthme pendant mon build là-bas, où est-ce que je me disais, fuck, je pourrais pas le faire ici. Fait que là, je regardais pour la piste intérieure au PEPS, puis là, je suis allé faire un training à l'intérieur, puis là, facile. J'ai fait, je peux pas faire ça ici, ça va être débile. Là.
Ça tourne serré, c'est ça l'affaire.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est...
Les virages, c'est ça que j'ai trouvé, c'est comme, on dirait que ça, t'as comme envie de sortir, là, tellement ça vire vite.
Exact. Exact, puis c'est encore pire, là. Les gars, ils vont encore plus vite, là. Ben, tu sais, les gars élites, là, ils vont vraiment, vraiment très vite, fait que pour eux, c'était vraiment difficile aussi. Je veux pas, tu sais, moi, c'est un peu moins pire, là, je roule un peu moins vite, là, mais reste que c'est ça. Ça a été une grosse course, là, ce mois de décembre, celle-là, là. Fait que ça a été... j'avais hâte que ça finisse, là, j'avais hâte de finir mon dernier tour, parce que je veux pas...
C'est quoi qui se passe? On en a parlé avec Charles Philibert Thibouteau, il y a quelques semaines, mais lui, il voyait plus dans l'optique de dehors, tu sais, sur une piste de 400 mètres. C'est quoi qui se passe dans ta tête sur une piste de 200 mètres pendant le 5 kilos? Parce que mon expérience à moi, c'est que j'ai comme blackout jusqu'au dernier 800 mètres. Entre 3000 mètres et 4002, mettons, là... Pas vraiment de souvenirs de ce moment-là.
Je comprends. Mais je comprends, puis à un moment donné, ça vient comme un peu redondant aussi. Les tours se suivent et se ressemblent quand même pas mal. Là. Donc oui, c'est sûr qu'on en oublie des bouts là, parce que c'est trop pareil. Là.
Ouais.
Mais c'est sûr que à quoi on pense. Je veux dire, je pense que l'idéal, c'est d'y aller un tour à la fois, là, de retrancher sa course en plus petits morceaux pour. Parce que si. Je pense que genre. Charles même qui m'avait parlé de ça, là, tu sais, si on se voit trop à la fin de la course, ben, tu sais, à un moment donné, ben, il faut que tu vives le moment présent puis que tu le cours le moment présent parce que, tu sais, si tu te vois tout à la fin, t'es pas en train de le courir le moment présent. Fait que, c'est ça, c'est de le prendre petit bout par petit bout, décortiquer sa course puis, tu sais, si 5000 pour certains, ça paraît court, ben, pour d'autres, ça paraît long. Fait que, c'est ça, moi, pour moi, 5000 indoor sur une piste de 200, je trouvais ça long, pas mal plus que de le faire à l'extérieur sur route ou sur une piste de 400. Donc, c'est ça, j'y allais un tour à la fois, puis tu te concentres sur des petites choses, puis c'est comme ça que tu réussis à passer au travers, finalement, de ton 5000 là, en un morceau.
Qu'est-ce que tu veux dire que si tu te vois à la fin, tu cours pas le moment présent?
Dans le sens que faut que tu penses à ce qui se passe présentement et non pas à ce qui peut arriver, ce qui va se passer à la fin de ta course. Là.
Ouais.
Je veux dire, t'as beau t'imaginer à passer à la ligne en faisant peu importe le temps, mais tu sais, faut que tu te concentres à rester au moment présent, puis tu sais, y aller là où t'es rendu dans ta course, c'est pas se dire, bon, ben, t'sais, dans un kilomètre, t'sais, il va me rester tant de, t'sais, vraiment se concentrer sur le moment présent, pis t'sais, c'est ça.
J'ai trouvé ça, t'sais, moi, c'était la première fois que je faisais un effort comme celui-là, de 15 minutes, t'sais, mais ben, 16-40, là, mais comme de ce range-là. En natation, le plus long que je faisais, c'était du 200 mètres, pis ça pas dure long, 2 là. Minutes, mettons. Ouais. Fait que t'as pas le temps de vraiment te concentrer sur tes sensations, mettons, puis te concentrer sur qu'est-ce que t'es en train de vivre.
Mm-hmm.
Parce que pendant 150 mètres, tout va, puis là, le dernier 50 mètres, là, ça commence à... C'est un peu de la survie, c'est ça, tu sais, ça commence à faire mal, mais comme... Aussitôt que ça commence à faire mal, c'est fini, pratiquement, là, tu sais.
Ouais.
Mais là, pendant, tu sais, de... Pas vraiment ça, là, du troisième kilo au 4.2, là, je me disais, je pense que je vais mourir.
Mais c'est dur, là, puis c'est dur de pas ralentir dans ce bout-là de la course.
Ben, moi, c'est exactement ça qui s'est passé, dans le fond, tu sais, c'est
2.5, là,
ça fait 3.19, 3.21, 3.21, 3.24, 3.16. Fait que, tu sais, j'avais encore les jambes pour faire 3.21, ouais. 3.21, mettons, là. J'ai juste fait 3.24 faire... parce que là, dans ma tête, c'était comme, man, il me reste 2 kilos de
oui,
tout ça.
C'est genre. Dur de se faire confiance, de dire, bon, ben, mon corps va être capable, tu sais, de continuer sur un pèse de, comme tu dis, 3.20 plutôt que 3.24, puis de dire, bon, ben, je vais être capable de quand même finir fort à la fin. Fait que, tu sais, il faut vraiment se faire confiance, puis, tu sais, t'as le temps d'y penser aussi.
C'est ça, l'affaire.
Contrairement à une course de 10 minutes, là, un 5 kilos ou peu importe la plus longue distance, tu as le temps d'y penser, mais il faut vraiment... Tu sais, plein d'entraînements qui nous préparent à ça, puis après ça, ben, faut que tu te fasses confiance, là, puis que t'es...
C'est comme un saut dans le vide, là.
Ouais.
On dirait, moi, c'est comme ça je l'ai vécu, là. C'est comme, t'as fait le training pour, tu sais que 3.20, techniquement, t'es capable de faire un pace de 3.20, fait que genre... Allons-y maintenant.
Ouais,
là, faut comme pas que tu te doutes, genre.
Non, c'est ça.
En natation, c'était ça que je trouvais souvent. Ceux qui étaient comme les meilleurs, genre, surtout sur du 400, 800, 1500 en montant, c'était vraiment ceux qui, on dirait qu'ils pensaient à rien.
Ouais.
Tu sais, qui faisaient juste comme y aller, là. Tu sais, genre, ah, mais je vais être all out. Puis genre.
Ouais, puis ça me fait penser aussi, là, des courses, là, où est-ce que, justement, tu sais, quand on a la chance de courir en pack ou d'avoir un lapin, ben. C'est ça un peu qui arrive, c'est que tu penses justement un peu à rien. Tu te mets derrière la personne, tu penses à rien, tu fais juste te laisser aller, courir, t'accrocher. Tu penses à rien, tu décroches, puis à un moment donné, l'affaire arrive, là, puis tu pèses le champignon, tu donnes tout ce qui reste. Puis c'est vraiment ça, là, c'est d'essayer de se faire décrocher, de décrocher un peu mentalement, de s'économiser mentalement pour être prêt à la fin à tout donner, puis à souffrir, puis à justement endurer, genre...
Ouais.
Le mal que c'est dur, là, finir une course, là.
C'est vraiment tough.
Ouais.
Cool. Puis ce 5 km-là, il était dans quel contexte?
C'était à Boston. C'était intense parce que c'était la piste intérieure à Boston, une piste de 200 mètres. Mais c'est une piste qui est très roulante aux États-Unis par rapport à la manière dont elle est faite.
C'est ça. Comment c'est ça fonctionne, ça?
C'est une piste qui est bankée, qui est courbée là, dans les pentes. Dans les courbes sont comme un petit peu sont en incliné. Là. Puis, Par exemple, au PES, ben, les courbes, il y a des longues droites puis des très petites courbes, ce qui veut dire qu'on tourne moins longtemps, mais très abruptement. Tandis qu'à Boston, c'est un peu l'inverse. Les droites sont moins longues, puis les courbes sont moins serrées, plus arrondies.
Plus rond qu'ovale,
mettons. C'est ça, exactement. Fait que ça fait une piste qui est un peu plus roulante.
Je pensais que c'était...
Par l'inclinaison, par la surface, par le fait que les matériaux en dessous, je pense que tout est fait en bois, la structure. Bref, c'est une des très bonnes pistes en Amérique du Nord là, pour courir. Puis, ben, c'est ça, c'était une course, là, mais c'était vraiment un niveau très relevé parce qu'on était 27 filles entre 15-30 et 16 flats. Mais 27 filles sur une piste de 200 qui roule tout à peu près pareil.
Chris, c'est du monde.
Il y a du monde. Puis c'était vraiment dur à courir parce qu'on veut tout courir dans le corridor intérieur. Il n'y a tout pas de place. On n'arrête pas de tourner. Et on n'arrête pas de se dépasser, de se refaire dépasser parce qu'on veut tout pas être trop loin, tu sais, mettons, d'un pack de l'avant ou peu importe de où est-ce qu'on veut être. Puis il n'y a pas de place pour tout le monde à 27 filles sur une piste de 200. Fait que c'est vraiment difficile à courir. Puis
il y en a qui courent à l'extérieur. Là,
exactement.
Avec plus de virages qu'une piste de 400, à l'extérieur, c'est encore
pire.
C'est
double, exact. Ouais, double de virage. Là. Ça tourne plus serré aussi. Piste de 400 à l'extérieur, c'est un virage qui est doux, là, qui tourne à peine.
Oui, c'est
là.
Ça. Ouais.
Fait que non, c'est ça. C'était quand même intense comme course. Là. Je pense que c'est une des courses où est-ce que j'étais le plus serré, mettons. Que j'avais moins d'espace, puis de A à Z, là, je me suis battue, manière de parler, là. J'ai joué du coude un peu, mais tu sais, pas méchamment, juste parce que
t'as pas le choix,
j'avais
là,
de la misère à me trouver une place, puis je me faisais tant dépasser, puis je redépassais, parce que là, des fois, ça dépasse, mais ça ralentit après, fait que c'est difficile à courir quand même.
Ouais. Puis comment, est-ce que le pack s'est effilé, puis là...
Honnêtement, moi aussi, je m'en rappelle plus tant des détails. Ce que je me rappelle, c'est que ça brassait pas mal, puis que j'avais hâte de me rendre à la fin. Puis oui, c'est sûr que le pack, c'est un peu flushé, dans le sens qu'on était un peu moins condensé. Mais il y avait tant du monde. Là. À Boston, c'est ça, le temps du monde à quantité. Là. Avec 27 filles qui finissent en 15-30 puis 16 flats.
C'est fou, là.
C'est énorme, là. Fait que c'est ça, c'était vraiment condensé, là.
Ouais. Puis toi, étant donné que c'est un PB, t'as bloc, là, dans le fond, tout au long. Il y a pas de... Tu t'es-tu pacé un peu?
Ah, mais c'est ça, c'était dur aussi, parce que dans le fond, je sortais... Oui, j'ai fait un PB, mais comme ça sortait d'une saison de cross-country, où est-ce que, mettons, mes entraînements, toutes les distances que je faisais, c'était cadence 10 kilos.
Mm-hmm.
Fait que j'avais pas vraiment fait tant que ça du pace 5000. Fait que tu sors de la saison cross-country, la fin de semaine, tu sais, je venais de faire le Chemin canadien de 10 kilos en cross, fin de semaine d'après, je me retrouve à Boston courir un 5000, et c'est pour ça que je l'ai trouvé dur aussi, parce que, tu sais, mon corps était comme plus habitué, ça faisait comme 3-4 mois que je faisais juste du pace 10.
Un bon pis... choc, là.
Ouais, non, c'est ça, j'ai trouvé dur pour ça, mais probablement qu'il a mieux entraîné, rendu au printemps, tu sais, sur des, tu sais, entraîné sur des paces 5 kilos plus vite, ben là, je vais être plus à l'aise à courir sur du, sur des bases de entre 3,5 et 3,10 au kilo, sur 5 kilos, que de, mettons, de le faire, tu sais, après une cross-country où que j'ai passé la saison à courir, tu sais, pace 10 kilos, mais cross-country, fait que c'est encore une coche plus lent.
Ouais.
Tu sais, fait que c'est ça, c'est plus un 3,25, 3,30 au kilo, tu sais, pour un 10 kilos cross. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment différent.
Comment tu te prépares pour du cross-country? La question m'est venue pendant que tu parlais, là. Comment c'est... Tu sais, parce que il y a quand même plusieurs spécificités, là, au cross-country versus course sur piste ou même course sur rue, là. Tu sais, dans le sens, les surfaces instables, j'imagine.
Ah
les...
ouais, c'est sûr que... Ouais, y a montée,
descente souvent.
Oui.
Comment, c'est quoi la préparation pour un 10 km de cross-country, mettons, versus préparation pour un 10 km de route?
Oui, ben c'est sûr que, mettons, ben, on s'entraîne beaucoup à Québec, aux plaines.
Ouais.
On s'entraîne là souvent. On va aussi...
sur le gazon.
Exactement, directement sur le gazon. Donc, puis cross-country, ça ressemble un peu à un parcours de terrain de golf, là. Fait que c'est vallonneux, côté un peu. Tu sais, les parcours des plaines, c'en est un bon, là.
Ouais.
Où est-ce qu'on fait que très souvent
c'est
que
monter descendre. C'est quoi vous faites aux plaines, le parcours?
Le parcours officiel, donc celui qu'on fait tout le temps d'année en année, on part en bas, on commence le long des plaines en arrière, on monte, ça s'appelle la côte Martello. Après ça, on descend de l'autre côté dans des vallons, on remonte, on descend, on remonte. Après ça, il y a comme un petit plat qui passe par-dessus là où les réserves d'eau, là, c'est les réserves où c'est relativement plat. Puis ça redescend, puis ça recommence parce que c'est quatre boucles de deux. Parce que au provincial, c'est des. Le chemin provincial, par exemple, c'est 8 kilos, pas 10. C'est juste au Canadien que c'est 10 kilos. Fait que c'est ça. C'est quand même quatre boucles de deux, mais c'est exigeant parce que, justement, mis à part le 400-500 mètres qui est en haut sur le plateau, ben après ça, soit ça monte, soit ça descend. Puis c'est un bon cross. Puis on s'entraîne souvent là. Je dirais à peu près une à deux fois par semaine. T'sais, une fois par semaine aux plaines, puis une fois ailleurs. Ça peut être quand même un training de piste, mais au moins une fois par semaine, s'entraîner, faire la grosse séance d'entraînement sur les plaines directement.
Mm-hmm. Fait qu'à part, mettons, cette séance spécifique-là, le training reste le même parce que ça reste une zone de je sais pas,
puis,
20 minutes. Là.
Pour la race, mettons?
Ouais.
Ouais, c'est 8-10 kilos, ça dépend. Les gars, c'est peut-être plus autour de ça, là, une vingtaine de minutes, là. Mais ouais, c'est ça. Sinon, le reste, c'est un peu plus de volume pour ma part, étant donné que 10 kilos, ben moi, c'est un plus.
C'est à la limite supérieure.
C'est ma limite supérieure. Fait que là, il faut que j'accumule un peu plus de millage versus, mettons, printemps, l'été, ben là, je m'entraîne plus en intensité. Fait que par exemple, mes trainings, ben là, je fais moins de millage, moins de volume dans mes trainings. C'est parce que c'est plus spécifique, c'est plus rapide, c'est plus des petites distances. Fait que là, je veux pas à l'automne, là, je vais cumuler plus de millage, là, à peu près 100-110 kilos au moins par semaine. Là.
Ouais, mais parlons-en, rentrons dans ça, en fait, là, les différents trainings. Parce que une chose que j'ai remarqué, puis j'en ai parlé avec Charles Castonguet quand il est venu sur le podcast, c'est que de changer de type d'objectif, tu sais, puis je donnais mon exemple du 5 kilos pour éventuellement après ça faire le marathon, mais ça permet d'aller frapper une couple de différentes zones, dans le fond, d'entraînement. Puis il y a comme des gains à l'adaptation si tu changes de cycle d'entraînement, dans le fond, là, tu sais. Puis par la définition d'une saison de cross-country, j'imagine que ça permet de faire ça. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que pendant la saison de cross-country, tu cours autour de 110 km par semaine. Ça ressemble à quoi, mettons, tes semaines pendant cette saison-là? Puis la saison dure de quand à quand?
Ben souvent, mettons, après la saison d'été qui va terminer quelque part en août, j'ai souvent comme une semaine et demie, deux semaines, vraiment relax, là, je fais autre chose. Là, je vais nager, justement, je fais de vélo, je laisse la course à pied de côté un 10 à 14 jours environ.
Ouais.
Après ça, on revient...
Complètement coupure complète ou des fois, tu fais des petites jogs
un bon 10 jours, pas de course.
Coupure complète.
Coupure complète. Je fais autre chose. Je m'amuse.
Classique.
Je décroche, Puis après ça, je reprends tranquillement. Puis rendu au début septembre, jusque dernière de novembre, où est-ce que habituellement il y a lieu le championnat canadien.
Ouais.
Mais c'est toute la saison de cross. Fait que septembre, octobre, novembre, c'est là qu'on va faire plus de millage, qu'on va encaisser des trainings, où est-ce qu'il va avoir 10 kilos d'intensité, pace. Ça peut être de pace 15 kilos à pace 100, ouais. Ça dépend. Là. Des fois, on finit à la dernière petite série vraiment plus vite. Là. Mais,
combien il y en a de training comme ça par semaine?
Deux, je dirais.
Deux?
Ouais, un majoritairement un lundi et un vendredi.
Ouais.
Puis, même si je suis pure athlète ou GR, ben ça changera pas, dans le sens que je vais pour quand même continuer de profiter, mettons, de la gang d'entraînement, ouais. Parce que le club civil puis le club du Rouge et Or ne fait un peu qu'un, nécessairement.
Ouais, ouais.
Le club d'athlétisme de l'Université Laval ou le club du Rouge et Or, c'est un peu la même chose,
ouais.
Fait que, tu sais, je vais pouvoir quand même continuer de profiter de la gang de gars, les filles les plus rapides pour m'entraîner avec elles et eux.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, mais c'est vraiment chouette là, comme entraînement, là, deux fois par semaine avec eux autres. C'est ça, c'est le fun, parce que dans le fond, rendu à l'automne, tous ceux qui faisaient de l'athlétisme, peu importe que ta distance soit 800 ou ce soit 10 000, on se rejoint tous à faire le même entraînement.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'à rendu à l'hiver, au printemps, à l'été, ben là, ceux qui sont plus spécifiques 800-1500 vont faire des trainings spécifiques 800-1500. Ceux qui sont plus dans le milieu, tu sais, 3000-5000, ben ils vont faire ces distances-là dans leur training. Fait que là, tous ceux, même demi-marathon, on les se rejoint aussi, ils embarquent avec nous autres, tu sais, pour les training séances de cross. Fait que là, on se commence à être une huge gang, puis c'est vraiment cool parce que là, on peut tous s'entraider, puis ça...
Puis tout le monde trouve quelqu'un à son pace, là.
Absolument, aussi. C'est ça qui est cool, ouais.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que nous autres, en natation, je repense à ça, la saison commençait en septembre, puis finissait en février, tu sais, les championnats du sport étaient essentiellement en même temps que les championnats d'athlétisme, mais on n'avait pas l'espèce de saison de cross que vous avez, tu sais, il n'y avait comme pas d'objectif à mi-terme, dans le fond.
Une grosse saison.
C'était une grosse saison, sauf que l'idée de, quand tu commences la saison, aller établir des bases d'aérobie puis de millage, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que plus tu t'approches de ton truc, plus il faut que tu sois spécifique. Mais au début, tu peux commencer vraiment large. Puis là, vous autres, par design, c'est ça qui se passe, dans le fond.
Ben, tu sais, on suit les saisons, puis c'est ça que ça fait
c'est
ça, finalement.
C'est vraiment pis, cool, ça.
C'est même ceux qui font pas de cross-country. Des fois, il y en a qui, tu sais, les coureurs de 800-1500, ils vont peut-être faire un cross ou deux dans l'année, mais tu sais, c'est tout, là. Mais ils vont quand même embarquer dans ce training de volume-là, puis c'est ça, ça va nous faire une belle grosse gang s'entraîner, parce que là, on est vraiment splitté, là. Tu sais, ces temps-ci, tu veux pas tout le monde s'entraîne de manière spécifique.
Ben oui, c'est ça.
Puis ça veut pas dire non plus qu'on va faire les mêmes événements. Tu sais, tous ceux qui sont universitaires, ben, ils ont des fins de semaine avec beaucoup de compétitions, tu sais, versus ceux qui n'en ont pas, ben, ils vont pas faire des build-up un peu plus longtemps. Fait qu'ils vont pas les mêmes trainings non plus parce qu'ils n'ont pas les compétitions en même temps. Mais en cross-country, tout est en même temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis c'est juste du cross-country.
Ouais.
Fait que c'est ça. C'est que c'est vraiment cool comme saison, là.
Ouais. Fait que là, mettons, dans votre saison de cross, il y a ces deux entraînements-là tout en groupe, puis le reste du temps, c'est-tu des jogs easy chacun par chacun chez soi ou...
Ouais, c'est ça. Je te dirais que majoritairement, toute la gang, on a deux séances par semaine, puis le reste du temps, c'est adapté selon chacun. T'sais, peut-être qu'il y aura des gars, des filles qui vont avoir moins de millage, fait que ça va être plus allégé. Il y en a qui vont avoir plus de millage, fait que ça va en avoir un peu plus.
Toi, tu fais quoi dans ce temps-là, mettons?
Ben, dans le fond, si moi, j'ai entre, mettons, entre 90 et 110, ben, c'est sûr que moi, je vais avoir des journées, plusieurs jours dans la semaine où je vais doubler, faire double sortie de course à pied, versus il y en a d'autres que, tu sais, ça va être entre 50 et 70 parce que, tu sais, ils sont plus jeunes. Il faut respecter ça aussi, tu sais. Ceux qui arrivent du cégep ou qui ont commencé à courir au cégep, puis arrivent, ils ne peuvent pas faire tout de suite 90 kilos, là.
Ouais.
Faut vraiment leur laisser le temps de se développer, puis de pas faire en sorte qu'ils se blessent, là.
Mm-hmm.
Fait que non, c'est ça. C'est...
Quand tu fais 90, si tu fais des doubles, quand tu fais 90, c'est 5-10, genre?
Non, c'est souvent... j'ai quand même une journée par semaine de congé.
Ouais.
Souvent le jeudi.
Ouais.
Fait que c'est ça. Ben, souvent, mettons, lundi, j'ai une grosse séance. Fait que à moins que je vais faire plus de millage, je fais une petite sortie le matin. Mais souvent, lundi, c'est juste mon training, mardi, double, plus ça peut être des 10-8, 10-10... avec une muscu, mercredi, une plus longue sortie de entre 1h15, 1h30, ça dépend là, un peu plus.
Ouais.
Ça dépend où je suis rendu dans la saison. Jeudi off, vendredi training, samedi longue sortie, dimanche, une sortie plus courte, dans le sens pour pas trop charger en vue du gros training, qui est souvent plus le lundi que le vendredi.
Puis revenir aussi de la longue sortie. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que le samedi, c'est la longue sortie, puis le dimanche, on a comme un jog, ça peut être un 10-12 kilos, T'sais, juste pas trop chargé pour le lendemain, être sûr qu'on fasse un bon training au lundi.
Puis quand t'arrives, mettons, dans la saison d'athlétisme sur piste intérieure, après ce bloc-là de cross-country, qu'est-ce qui change dans ta semaine? C'est juste la spécificité des entraînements intenses?
Majoritairement.
Le reste semblable?
Honnêtement, ça reste pas mal pareil. C'est ça, c'est que là, je vais descendre une couple de kilos parce que mes trainings, ben ça va être des trainings spécifiques. Fait qu'au lieu d'avoir 10 kilos d'intensité, là, on ne compte pas, quand je dis 10 kilos d'intensité, c'est vraiment la partie intervalle.
Ouais. Place d'avoir 5 x 2, mettons.
Tu sais, ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir, mettons, c'est ça, 5 x 2, ben, tu sais, si j'ai. T'sais, je fais des 400, mais peut-être bien que je vais accumuler finalement 3, 4, 5 kilos d'intervalle. Fait que, t'sais, ça fait quand même 10, ça peut faire un 10, 15 kilos de moins dans la semaine. Fait que c'est vraiment plus là que ça vient supprimer. Mais en reste que la charge que le corps va encaisser, la charge d'effort, elle va être la même. Là.
Ouais. Fait que c'est plus je parle à du monde qui font de la course, plus je réalise qu'en course à pied, c'est sensiblement ça. Dans le fond, c'est rare le monde qui font plus que 2 trainings d'intensité par semaine.
Ben en fait, j'en ai déjà fait avant 3 trainings d'intensité. Il y en avait un qui était plus petit que les deux autres. Mais maintenant, on a commencé à miser davantage sur la qualité que la quantité.
Mm-hmm.
Fait que vaut mieux faire 2 vraiment bons trainings qu'en avoir 3 par semaine, mais en avoir un où t'es fatigué puis que ça roule pas tant puis que t'as pas vraiment travaillé en qualité. Là. Fait que, t'sais, vaut mieux en avoir 2, t'sais, de bonne qualité que juste... C'est ça.
Ouais, puis aussi essayer d'éviter de se blesser parce que la course à pied, c'est quand même un enjeu important.
Oui,
puis
oui,
plus tu mets de l'intensité, plus tu as de risques de mettre des tensions sur tes tendons, sur tes muscles. T'as-tu déjà été blessé?
Ah mon Dieu, oui.
Ouais.
Mais là, je pense que je connais pas de coureur qui ont jamais été blessé.
Non, c'est
tout,
ça.
Là.
Hein?
C'est vraiment difficile. On peut juste travailler assez de pas trop se manganer, mais je pense que je suis quand même une des chanceuses qui a pas été blessée sur une longue période de temps. Pas l'année passée en steeple, je me suis comme un peu...
T'es tombée?
Je suis pas tombée, mais juste que... ça, c'est l'année d'avant que je suis tombée, mais je m'étais pas fait mal en tombant. Mais non, c'est ça, c'est juste que l'année passée, dans la fosse, je m'étais comme coincée de quoi dans le pied? Les médecins sont meilleurs que moi pour l'expliquer, là, mais c'est comme un cartilage qui a comme été coincé, puis c'est vraiment long à guérir parce
en
que
tombant,
justement...
En atterrissant.
J'ai pas tombé, j'ai atterri, ouais, atterri mais ça a mal atterri, mettons. Fait que ça l'a vraiment endommagé, tu sais, un cartilage du pied, puis c'est dur à se recréer, à se refaire, à se reconstruire, fait que ça prend des mois et des mois. Fait que là, cette année, on espère que ça va être correct, que je vais être capable de courir un petit peu comme... de faire un PB, là. Mais non, c'est ça, je suis quand même chanceuse. J'ai des petits bobos ici et là, mais rien qui m'empêche souvent de courir, là.
Ouais. Le steeple, c'est vraiment bizarre, on dirait. Genre, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'allais des fois à sa piste extérieure au Peps, puis je voyais les... Tu sais, les trous, là, les fosses.
Ben, la fosse, là,
puis là, tu vois ça, puis là, je me disais tout le temps, à quoi ça... J'avais jamais vu une course... de steeple avant. Quand je regardais les Olympiques, c'était tout le temps juste la natation que je regardais ou tu sais, les sprints ou ces affaires-là. Puis là, à un moment donné, j'ai compris c'était quoi. Puis quand j'ai compris ça servait à quoi, j'ai encore moins compris pourquoi ça existait, là, tu sais. C'est quoi le... En fait, je sais pas, même pas c'est quoi ma question, mais quand t'arrives là, mettons, puis c'est parce que c'est une trappe d'eau, là.
Ouais, exact.
Dans le fond. Mettons, fait que tu te mouilles les pieds juste comme pour te mouiller les pieds, là.
Mais dans le fond, ça dépend, tu sais, parce que pour ceux qui connaissent pas le steeple, c'est une course de 3000 mètres.
Ouais.
Il y a juste la distance de 3000 mètres qui se fait. Il y a 35 obstacles, 28 haies normales, là, qu'on fait juste passer par-dessus, puis il y en a 7 fois où est-ce qu'on passe dans la fosse, une fois par tour, grosso modo.
Ouais.
Puis la fosse... elle est faite en angle, de sens que quand on se propulse, c'est la seule haie qui, normalement, on va se propulser, on va se pousser de
pousser
la haie,
sur la haie
pour
ouais.
aller sauter le plus
comme
loin
comme un beam
possible.
De gymnastique. Là.
Exact. Ouais, ouais. Comme la fameuse put de gymnastique. Ouais. Là. Puis on se propulse dans l'eau, puis dans le fond, l'eau, c'est un trou d'eau qui monte en angle.
Ouais.
Puis c'est pas... Pour mon pied, pour moi, c'est pas agréable là, que
non.
mon pied atterrisse super en angle. Puis les gars, ben eux, la hauteur, la barrière, elle est plus haute. Fait qu'eux autres partent de plus haut aussi. Fait qu'ils touchent... Habituellement, les gars mettent un pied à l'eau. Un petit pied à l'eau, puis pouf, ils continuent, puis ça va. Les filles, on est 6 pouces plus bas. Fait que veux pas... Tu sais, pour... On, c'est plus dur d'aller plus loin parce qu'on est en partant on commence plus bas, tu sais.
Ouais.
Fait que puis on est moins fort musculairement, on arrive moins vite ouais. dedans. Hein? Fait que tu sais, reste que souvent je mets plus deux pieds dans l'eau que ouais. Que le reste là. Fait que mais non, c'est ça, c'est vraiment spécial comme course. C'est pourtant ça fait vraiment longtemps que c'est aux Olympiques là, depuis,
ouais, non,
depuis les années
ouais,
1900 là, ouais. c'est aux Olympiques puis c'est sûr que ça n'a pas toujours été accessible aux femmes là, mais ça fait longtemps que c'est couru là.
Que mettons y a-tu genre y a-tu du monde qui ne font que ça ou la plupart du monde mettons quand tu vas sur une équipe nationale, c'est comme tu fais d'autres courses puis t'es aussi inscrit à ça?
Ben dans le fond, si tu parles pour se classer là, tu sais, les gens rendus aux Olympiques sont assez spécifiques là. Il y a quelques petites exceptions qui vont faire des doublés genre 5000, 10 000,
ouais.
Ces affaires-là, ouais, ouais. Mais assez souvent, mettons, c'est rare que le coureur de steeple il va aller se classer sur une grosse équipe nationale ou autre chose. Ça arrive des fois peut-être pour d'autres équipes là, mais c'est sûr que le coureur de steeple va être très bon au 5000, va être très bon au 1500, mais probablement que la personne qui est le coureur qui va être spécifique 1500 ou 5000, ben il risque de d'être vraiment meilleur que le coureur de steeple. De steeple. Fait que, non, c'est ça. C'est, on va être bon, je pense, que les coureurs de steeple vont être bons ailleurs sur d'autres distances, mais jamais autant que ceux qui sont spécifiques, ouais. Sur justement 1500, 5000, etc. Là.
Puis, est-ce qu'il y a une musculation spécifique pour du steeple?
Ben, c'est sûr que, je veux dire, préparer à l'atterrissage des sauts, être réactif quand on saute, après avoir sauté la haie, être réactif à enchaîner le pas de course. Mais je dirais qu'on fait aussi des drills de haies, mettons.
Mm-hmm.
Donc, on met plusieurs haies une après l'autre, assez collées, puis on pratique à faire au ralenti, à la marche parfois même, les mouvements de passage de haies. Donc, ça, on fait. Je devrais avoir commencé normalement bientôt. Là. On commence à faire ces petits drills-là, ces éducatifs-là de haies, si je peux dire. Puis tranquillement, pas vite, on espace les haies dans une même séance. On commence avec les haies collées, on espace les haies. On le fait de plus en plus de manière dynamique jusqu'à en faire des vrais passages de haies en courant.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est des petites séances de techniques de haies qui vont venir préparer justement à être meilleurs techniquement sur les haies en steeple.
Ouais. Puis... ça, dans le fond, c'est une fois que la saison indoor finit, c'est une autre spécificité qui commence parce qu'il n'y en a pas des steeple indoor.
Non, non, non. Jamais tu vas avoir une fosse intérieure. Jamais tu vas sauter. Tu sais, mis à part le 60 haies, il n'y a pas grand monde qui saute des haies.
Ouais. Fait que ça une autre affaire encore quand la saison commence extérieure.
Ouais.
Tu as un autre changement dans ton training.
Ouais, puis c'est le fun.
Ouais, ben oui, pareil. c'est ça, exact, exact.
Le cross country, c'est différent, on court sur un relief, après ça indoor, ben là on sait si tu veux pas, on s'entraîne, on prépare la vitesse puis c'est tranquillement à être spécifique pour l'été, puis rendu à l'été, ben pour moi, il y a le steeple qui embarque, fait que les drill de haies pis tout ça, mais ouais. C'est vraiment cool, ça fait en sorte que mon année est comme divisée un peu en trois,
ben
là,
oui, c'est ça.
Trois
puis,
saisons.
Puis tout le temps ça, dans le fond, ça,
exact,
ça roule comme ça. Ouais. Est-ce que vous prenez une pause entre le cross-country puis le indoor ou non?
Oui, ben général, ça va dépendre des gens, mais généralement, tu sais, sans que ce soit une aussi grosse pause que la pause estivale, ouais. Là, de genre 10 jours, c'était peut-être des fois un 3-4 jours, tu sais, juste off pour comme... après ça repartir, puis ça laisse comme une semaine et demie plus mollo, plus tranquille avant de repartir, tu sais, recharger les batteries, tu sais, les bobos aussi, ça aide là, tu sais,
ouais.
Justement après les U-Sports, je me suis arrêtée comme 4-5 jours, après ça je repartis tranquillement, ben ce 10 jours là plus mollo, ben ça a vraiment permis à mon corps, tu sais, de,
ben oui, c'est ça,
de prendre du repos, puis tu sais, les petits bobos, il y en a quelques-uns qui ils ont disparu, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis, tu sais, il y a à peu près deux petites pauses dans l'année, puis une plus grande, je dirais.
Ouais.
Il y a trois saisons. Fait que
ouais, c'est ça.
Ça fait le tour, là.
Ça fait le tour de l'année.
Ouais.
Puis, est-ce qu'il y a, à part d'ajouter justement de quoi de technique comme les steeples, est-ce qu'il y a une différence entre s'entraîner pour du 200, ben, pour une piste de 200 mètres, puis s'entraîner pour une piste de 400 mètres?
Tu veux dire, entre faire les entraînements sur une piste de 200 avec
ouais.
une piste de 400?
Ouais, ben, non, mais dans le sens, dans ton plan d'entraînement, quand la saison extérieure arrive, à part ajouter le steeple dans le build, y a-tu autre chose qui change entre les deux...
entre les deux saisons?
Entre les deux saisons.
Pas tant, non. Je te dirais, pas pour moi. Peut-être que mm-hmm. pour d'autres, oui. Peut-être qu'il y en a que leur distance, c'est pas les mêmes intérieurs qu'à l'extérieur.
Ouais, y a ça.
tu sais, moi, ma distance,
Ça reste la même.
C'est ça, à l'intérieur, je vais courir partout ce qui est autour de 3000. Je suis assez polyvalent, je dirais. Là, je cours de 1000 à 5000 indoor.
Ouais.
3000, c'est mon dada. Fait que rendu dehors, 3000 stipules, 3000 plats indoor. Ça, c'est pas mal semblable.
Ouais. À quoi ça ressemble vos entraînements de préparation physique spécifiques à la course à pied? Mettons vos entraînements de muscu. Là.
En muscu?
Ouais.
Je pense que. Il y en a qui doivent s'imaginer qu'on lève pas mal de poids, mais c'est pas tant le cas.
C'est pas ça.
On va pas tellement tout le temps travailler en grande puissance, mais plus c'est. Mon Dieu, Charles serait meilleur pour l'expliquer que moi. C'est lui d'ailleurs qui fait ton podcast qui fait mes plans d'entraînement en muscu.
Ouais.
Je suis pas la meilleure pour dire comment se passent mes plans d'entraînement en muscu. Là.
Mais ça ressemble à quoi, mettons, une séance?
Ben souvent, ça va être comme 3 séries avec... avant ça, je vais commencer à faire beaucoup d'exercices de stabilisateurs, d'étirements. C'est mon échauffement un peu de muscu, tu sais, après avoir été courir. Puis ça, c'est vraiment important, tu sais, parce que ça va aussi éliminer les chances d'avoir des bobos par la suite. Fait que tu sais, étirements, rouleaux, massages. Fait que notre séance de muscu, ça commence par ça. Fait que, tu sais, c'est assez soft pour commencer. Après ça, ça va être 3 séries avec, grosso modo, 3 exercices par série qu'on va faire 2 fois. Fait que c'est souvent, il va y en avoir quelques-uns où est-ce qu'on va lever des charges, qu'on va faire des squats, des fentes avec une charge sur les épaules, une barre. Mais il y a beaucoup de petits exercices aussi qui vont travailler tout ce qui est muscle stabilisateur, tout ça. Puis il y en a qui vont être assez spécifiques à chacun. Charles, par exemple, il s'arrange pour que mes faiblesses musculaires soient travaillées. Puis que si j'ai tendance à faire, par exemple, certains mouvements de course dans mon patron de course qui sont moins bien faits, moins forts, ben là, on va les travailler en muscu pour que ça soit plus naturel de bien les faire. Je sais pas si je suis claire, mais non, c'est ça. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça, un plan de muscu pour un coureur, ben pour moi, là, pour une coureuse comme moi.
En termes de charge puis de répétition, mettons, ça ressemble à quoi?
Ben, c'est sûr que c'est pas des
c'est pas des 3 max, des 3 reps.
Non, c'est ça. C'est plus des 8 à 12 RM, mettons 8-10, là.
OK. Ouais. Puis, j'imagine beaucoup de stabilité.
Oui,
quand même. Est-ce que vous faites du bossu et des affaires de même? Là?
Exact, oui. Tout ce qui est ce genre d'entraînement-là, tu sais, où est-ce qu'on va travailler le patron de course, mais sur une surface qui est comme un bossu, mettons que ça va te forcer à vraiment rester stable, puis à travailler tes muscles stabilisateurs, puis en faisant le patron de course, des fois avec des petits poids dans les mains, ou en faisant aller un dumbbell d'un côté et de l'autre en patron de course, mais comme en arabesque, là. Mais c'est ça. Fait qu'on va. Grosso modo, ça va ressembler à ça, là.
Ouais. Puis, Charles Philibert Thiboutot me parlait du tempo, que lui, il avait commencé à implémenter vraiment beaucoup de tempo dans son entraînement, un gros set de tempo, mettons, par semaine. Là.
En muscu?
En course.
Là, on passe de muscu à... Ouais, où tu t'en allais.
On passe de muscu à une autre question, là.
Parfait.
Est-ce que toi, tu fais ça, du tempo? Est-ce que vous en faites beaucoup ou non?
Ben, dans le fond, c'est que souvent, comme... On fait 2 séances majoritairement d'intervalles par semaine. Puis souvent, dans la séance le mercredi, là, la journée où est-ce qu'il va avoir un jog long, ben, ça va arriver qu'on mette un prog ou un tempo dedans. Fait que ça, c'est pas impossible non plus.
Okay.
Fait que ça peut être ça ou le samedi, tu sais, c'est un peu moins souvent, là, mais plus en milieu de semaine. Là, au lieu d'avoir une 3e séance, ben là, on a un tempo ou un prog.
Dans votre longue sortie.
Exact.
Ouais. Ouais. Mais des sets de tempo, mettons le lundi ou le vendredi, vous n'en faites jamais?
Ben, je sais pas si t'as parlé qu'il faisait des fois des doubles entraînements, là.
Non.
Non, OK, c'est ça. Mais je sais pas trop exactement ce qu'il t'a dit. J'ai pas encore vu ce podcast-là.
Ouais. Ouais.
Mais je sais rien savoir qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais même si on est le même coach, Charles et moi, on fait pas les mêmes choses.
Non, c'est ça.
C'est... Lui, je veux pas aussi, ça fait plus longtemps que moi qu'il s'entraîne encore, là. Ouais. Charles, c'est vraiment un coureur qui a du millage dans le corps. Ouais, exact. Ouais. Mais non, c'est ça, je sais pas exactement c'est quoi son tempo. Là, je sais qu'il nous arrive, pour ma part, de faire des progs. Là,
ouais, that's it. Puis sinon, les gros sets, c'est vraiment des intervalles des 400, des 600 sur
piste. Ça peut être des 1000, des 3000, ça dépend des moments de l'année aussi. Là.
Ouais. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des pistes qui sont... Ben, tu parlais tantôt de la différence entre la Boston qui était vite à cause de la structure, puis puis je sais qu'ici au centre des glaces, c'est du béton en dessous. Y a-tu des pistes qui sont... Parce que moi, je trouve que les pistes, c'est rough.
Genre, c'est tough, là, physiquement, on dirait, là, genre, ouais, ça fait mal, là, tu sais.
C'est sûr que toi, tu sors un peu plus de la trail, puis des fois, tu fais des longues courses, parfois, qui sont dans le trail, fait que,
c'est mou, ça, pas, c'est fun.
Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que pour un coureur, c'est de trail, comme toi, qui après ça arrive, débarque sur la piste, c'est normal que tu vas trouver ça dur, ou sur l'asphalte aussi, là.
Ouais, je trouve que c'est comme, ça fait mal, là, genre...
Mais à l'inverse, moi, je suis comme pas tant habituée à trail. Ouais. Fait que je pense que je me suis habituée à courir sur du dur.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est ça. Là, quand on fait des trainings, je veux pas, des fois, le warm-up, cool-down, on essaie de le faire autre. T'sais, on le fait pas nécessairement à sa piste. Là.
Ouais, c'est
ça. On va le faire ailleurs. Puis quand il y a des sentiers autour plus mous, on va aller en profiter.
Exactement. Ouais, parce que le cool-down, après un gros set d'intervalle où est-ce que t'as les jambes sautées, puis que là, il faut que tu repartes le cool-down, sa piste, là. Moi, ça, c'est la pire chose. Au centre des glaces, genre, le cool-down, c'est tout le temps quasiment pire que le set, là. Je fais le set, là, je suis sauté, puis là, c'est quand même 2 kilos de jog là-dessus, là, genre, puis là, tu cours, puis c'est pénible, là. Genre, il n'y a rien de le fun dans comme le cool-down, là.
Mais non, de mon côté, je pense que je me suis juste habitué puis endurci là-dessus. Là. C'est une piste dure, mais je sais que c'est dur. Là. Je sais que mon corps trouve que c'est dur aussi. Je veux pas, on développe aussi des bobos, des petits bobos, tu sais, qui peuvent facilement découler du fait que la piste, c'est rough. Là.
Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour récupérer? Comment tu t'assures de bien récupérer, que ce soit entre les séances, que ce soit tout de suite après, ou c'est quoi tes trucs? Parce que je sais que dans une carrière, t'en développes plein. Là. Moi, j'en avais plein d'affaires que je faisais qui me rendait bien, là, tu sais, puis que ce soit, quand je nageais, je prenais des fois un long bain chaud, genre, trois fois par semaine, mettons, chez nous, là, tu sais, puis je louais des apparts en fonction du fait qu'il y avait un bain ou pas, mettons, puis ça me faisait me sentir bien, puis je sais pas si ça servait vraiment à quelque chose, mais moi, ça marchait pour moi. C'est quoi tes stratégies?
Moi, je dors.
Toi, tu dors? C'est la meilleure chose à faire.
Un athlète qui va dormir... trop peu, pas assez, ben il va avoir plus tendance à se blesser puis à moins bien récupérer. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, depuis comme un an et demi, deux ans, tu sais, j'essaie de me coucher un petit peu plus tôt, puis tu sais, je me réveille quand même pas trop, tu sais, de me coucher, mettons, des fois à 9h30, 10h, plutôt qu'il y en a qui vont avoir tendance à se coucher à 10h30, 11h, ben, tu sais...
C'est une heure, là.
Tu sais, c'est déjà une heure de plus, là, faire des siestes. Je pense que le sommeil, pour moi, ça m'aide beaucoup.
Tu fais des siestes?
Oui, ben, tu sais, quand que je sais que je vais avoir... des fois, une séance d'intervalle qui va être un peu plus tard en journée. Tu sais, des fois, ça arrive souvent qu'on ait une séance en fin de journée, là, à 4h30, 5h.
Ouais.
Ben, faire une sieste après le dîner, ça va me redonner de l'énergie pour comme assez pour pas arriver fatigué de ma journée
c'est
en commençant à
entraîner. C'est du stock quand même, ça. Moi, je me rappelle toutes les fois où est-ce que je voyais de l'athlétisme. Justement, tu sais, moi, je sortais de mon training, mettons, à 5h30, ça finissait. Puis je voyais que les trainings d'athlétisme commençaient ou étaient à peine commencés, mettons, quand moi, je finissais. Puis je me suis toujours dit, me semble que t'as ta journée dans le corps à 5 heures, là. Ouais. Me semble que c'est tough d'aller générer de l'intensité en une fin d'après-midi, là, tu sais, puis comme, c'est comment, quand tu dînes, genre, t'as juste pris une collation entre le dîner, puis...
Ben, ça dépend à quelle heure commence, là, mais si j'ai un, tu sais, je veux dire, habituellement, c'est 4h30, 5h, 5h30, là, que ça commence, là, ça dépend des moments de l'année, là, mais, tu sais, je dîne correct comme faut, puis, tu sais, à la limite, je reprends peut-être une petite collation, 1h30 avant le training, parce que, justement, des fois, les trainings de cross-country, là, ça dure longtemps, là.
Ouais.
Tu sais, on peut être parti, on part du PEPS en joguant, on s'en va aux plaines, c'est 5,5 kilos à peu près, faire les éducatifs, tu sais, le moment de toilette, d'explication, du training, commencer le training, les poses, ici, là, ça, t'en reviens. Puis là, ben, il y a quasiment 3 heures qui est passé, là, un bon 2h30,
ah,
en
fait.
C'est
là. Ça, hein?
Ouais, c'est fou, un bon 2h30 qui est passé. Puis, tu sais, si t'as juste dîné à midi, puis que là, t'as commencé à 5h, puis t'as fini à 7h30, ben là, t'es dans le rouge, tard, là.
Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, il faut justement. Je fais une petite sieste quelque part. Tu sais, ne serait-ce que de me coucher 20-25 minutes, là.
Ah ça... ouais, des power naps, là.
Ouais, c'est juste pour dire que j'arrive pas fatigué
pas des, en commençant une heure, pas des 2 heures de sieste où tu te réveilles.
Honnêtement,
tu sais pas
une heure,
t'es où,
c'est beaucoup trop, là. Ouais. Tu sais, justement, tu te réveilles, c'est pouté, là. Fait ouais, que, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis d'apprendre aussi à bien gérer son alimentation, là.
Ouais.
Tu sais, qu'est-ce que tu sais que tu vas manger qui va te donner... Tu sais, qui va donner l'énergie que tu vas être capable de bien digérer aussi.
Mm-hmm.
Par exemple, avant un training, ben, tu sais, souvent, je vais manger des petites céréales granola avec une compote ou quoi de genre. Tu sais, quelque chose qui est facile à digérer, qui va me donner assez d'énergie, assez de glucides pour comme t'as fait tout mon training.
Puis tu consommes-tu, tu sais, tu dis des fois t'es parti pendant 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures sur les trainings cross-country, tu manges tes affaires pendant?
Non, tu t'alimentes-tu, non? Mais non, dans le sens que j'ai pas nécessairement besoin, parce que tu sais, si je prends une collation à 3, 3,5, puis que le training mettons, est à 5, tu sais, je vais être correct, là. Mais tu sais, je vais arriver.
Tu vas quand même puiser dans tes réserves, reviens, là. Surtout si tu fais de l'intensité,
dead,
là. Ouais.
Ouais, quand j'en reviens, je suis un peu dead. Ouais. Ouais. Tu sais, ça pourrait pas être plus long nécessairement. Sinon, j'aurais à comme trouver un moyen de m'alimenter un peu plus, là.
Ouais.
Ouais. Je suis pas encore rendu là, dans le sens que je fais pas encore, mettons, des trainings de demi ou de marathon, tu sais. Fait que ça, je pense, ce côté-là, j'ai pas encore à l'expliquer.
Le plus loin que tu vas, c'est 10 kilos d'intensité, dans le fond. Ou peut-être un petit peu plus que ça.
Ben, dans le sens, au total de la séance,
non, mais dans le sens,
mais une vingtaine de kilos,
ouais,
de,
c'est ça, c'est
20-25 kilos de,
ouais,
de training. Fait que oui,
c'est ça. C'est pareil, là.
Ouais, c'est ça. Fait que avec de
l'eau, sans manger, c'est du
fait. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle une fois, j'étais partie chez nous, tu sais, pour un 25 kilos, 25-26. Je pense que c'est une des fois où j'ai eu de la misère. Là, c'est les 4 derniers kilos, j'ai eu de la misère. Mais tu sais, j'avais pas d'eau.
Ouais.
Pas rien, fait que c'est 25-26 kilos, pas d'eau, pas rien. Ça va beau être une belle température, tu sais, d'un beau petit 17 degrés.
C'est beaucoup, là.
Et j'ai manqué, là. Mon corps a manqué, puis il a fallu qu'il ait épuisé loin parce que ça va beau être juste un jog. Mais tu sais, 26 kilos, t'es parti pendant presque 2 heures. Normalement, après une heure, si
faudrait que tu fuel quelque chose.
Exactement. Après une heure, faut que tu fasses de quoi, parce que c'est ça, j'ai manqué d'énergie dans mes 15 de... Après 1h45, je manquais de gaz.
Puis ça fait que c'est dur de revenir de ça aussi, quand tu vas loin de même. Là.
C'est ça, exact.
Ouais. Ouais. Ouais, je me rappelle des journées de camp d'entraînement à natation, où est-ce qu'on était vraiment sous-alimenté, là, puis t'arrives à la fin, t'as comme 2 entraînements de 2h, 2h15 à peu près là, dans ta journée, plus une muscu quelque part là-dedans, quand t'es en camp d'entraînement, vraiment au gros soleil. Puis des fois, c'était genre, tu faisais 2 gros crises d'entraînement, puis là, 3 jours à te remettre de tout ça, genre, juste 3 jours, t'es tellement allé loin, là, tu sais, puis le feeling de manquer d'énergie, là, c'est le pire feeling au monde, là, tu sais, de comme, t'as l'impression qu'il y a rien que tu peux faire qui va être bon, genre, t'es en muscu, puis c'est comme, t'as l'impression que la barre va s'écraser sur ton chest, là, ouais, ah non, c'est pas le pire feeling.
Non, mais c'est ça, c'est important de se connaître, puis de savoir qu'est-ce que t'as besoin, puis d'essayer de rentrer ça, même si t'as pas le temps de goût, même si t'as pas nécessairement faim après un jog, après un training, ben, tu sais, faut que ça rentre pareil, là, tu sais, faut que, sinon, ça, c'est après tough, que tu vas filer fatigué, tu vas avoir un down, là.
Mm-hmm.
Fait que, non, c'est ça.
Ouais, ça, c'est tough, se forcer à manger quand t'as pas faim, là.
Ouais.
Comme là, juste avant de venir ici, j'étais sur le tapis, puis j'ai quand même fait un gros training sur le tapis, j'ai fait, c'était 8-5-4 pace marathon avec 1 kilo de jog pas vraiment easy au milieu, là, un genre de kilo à 4,26, fait que c'est, pour moi, c'est pas facile faire ça, c'est juste pour descendre les pulses. Puis là, j'avais une heure avant de venir ici, mettons, puis là, j'ai comme, je me suis goinfré, mais j'avais pas faim, là. Il a juste fallu que je mange, juste pour me forcer à manger, là. Est-ce que tu fais du tapis?
Oui. Ben en fait, depuis comme que j'ai emménagé avec mon copain, il y a un an et demi, il y avait un tapis, fait que l'hiver, je sors moins dehors.
Ouais.
Mais sinon, dès qu'il fait beau, là, je suis dehors, là.
Puis est-ce que ça change quelque chose?
Ben, je pense pas pour moi, là.
T'as rien remarqué que ça a changé? T'as pas...
Ben, tu sais, je mets un peu de pente, là, je mets un peu d'inclinaison tout le temps, je fais que je vais sur le tapis. Puis non, pour vrai, je te dirais que quand, mettons, cet automne, j'avais deux stages en même temps, des cours... Ça me sauvait un peu de temps, des fois, de juste aller sur le tapis plutôt que commencer à m'habiller, tu sais, en novembre, là, à t'habiller en hiver, tout ça. Ben, ça le fait encore, courir dehors, juste que des fois, ça prend un peu plus de temps puis de motivation, tout ça, que juste j'allais sur le tapis. Moi, j'étais bien sur le tapis.
Tu restes en dedans, là, ouais.
Fait que, tu sais, je vais sur le tapis, puis moi, j'ai pas ça nécessairement.
Ouais.
Fait que, puis je trouve que ça fait la job, puis des fois, l'hiver, avec les surfaces glissantes, surfaces instables, avec la neige, tout ça... Il y en a même qui vont se blesser, puis que le tapis, ça va être une recette pour éviter de se blesser. Fait que...
Ouais, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. L'année passée, j'ai couru, je faisais mes intensités dehors. Puis, tu sais, des intensités je faisais pas des 200 à bloc, là, mais tu sais, je faisais des 4 kilos, mettons, pace de marathon, puis ces choses-là. Puis, j'ai pas pu courir en février parce que je me suis blessé. Genre, mes chevilles, c'était même pas... Je me suis même pas flippé une cheville, c'est juste que à force d'être comme mis à l'épreuve, à comme devoir tout le temps m'essayer de me stabiliser, mettons, là, ma cheville a amené, je me suis réveillé un matin, plus capable de marcher dessus. Genre. plus du tout capable. Ça m'a pris un mois à revenir de ça. Puis là, cette année, j'ai fait fuck off. Toutes mes easy, je vais les faire dehors. Tu sais, mettons des jogs relax de une heure, je vais aller dehors, puis je vais prendre mon temps, puis je vais être en zone 1. Mais tout ce qui est plus vite, ça va être sur tapis, puis aucune blessure, rien, tu sais, rien à signaler. Là.
Tant mieux.
C'est une bonne, c'est une bonne solution. Est-ce que, pour rester dans la thématique de la récupération, on saute un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que tu parles, puis genre, il y a des questions qui me viennent.
C'est bien correct.
Est-ce que tu te roules sur des rouleaux ou avec des rouleaux à main, mettons?
Oui, ben sur le rouleau ou avec une balle, majoritairement. Oui, on a en plus la chance de temps en temps aller. Charles Castonguay, il nous anime des séances, on appelle ça la séance de récupération. Mm-hmm. C'est plus une séance yoga, étirement, roulage, qui nous montre un peu comment se rouler et tout ça. Fait que oui, quelques fois par semaine, la balle, le rouleau sont jamais bien loin. Avant les muscu, justement, ça fait partie aussi de la séance d'échauffement muscu.
Ouais.
Donc oui, assez souvent.
Activation, là.
Oui, à des fois. Tu sais, même avant les trainings, les gros trainings, on sort la balle, le rouleau, on commence à s'activer un peu plus pour être sûr d'être vraiment bien prêt rendu au training. Là.
Mm-hmm. Puis une fois que, en termes d'échauffement pour ces trainings-là, mettons, là, tu fais ça, tu fais un petit peu d'activation, tu fais un jog, j'imagine que vous faites plein d'éducatifs juste pour essayer de... Tu sais, un genre de 10 minutes d'éducatif avant des intensités ou non?
Oui, absolument. Donc, les jogs, non, là, dans le sens que je ne vais pas faire les éducatifs avant un jog, mais comme...
Est-ce que tu fais un warm-up avant un jog?
Non, pas un jog.
Un jog, mettons...
Dans le sens que ça peut arriver que je vais commencer le premier kilo plus mollo, deux kilos, tu sais, c'est plus mollo, mais comme...
Mais tu ne commences pas à t'étirer puis à faire des warm-up pour...
Je veux dire, il va y avoir quelques exercices que je vais faire avant les jogs pour... des fois, c'est des exercices qui vont me préparer, qui vont activer certains muscles qui sont tendance à être...
À s'endormir,
Tu sais, qui vont être plus faibles. Fait que, tu sais, juste les réveiller avant de partir courir. Des fois, après ça, ça va éviter un peu les bobos, les blessures. Mais sinon, mettons, pour revenir aux éducatifs, grosso modo, c'est plus une séance d'intervalle où est-ce qu'on va, comme, faire notre warm-up 20 minutes, une vingtaine de minutes. Après ça, faire nos éducatifs, puis la séance d'intervalle, après ça, le cool-down.
Ouais. Puis les éducatifs, est-ce qu'ils servent aussi à développer des patrons de course plus efficaces.
Mm-hmm, absolument.
En natation, c'était ça qu'on faisait. On faisait des éducatifs pour essayer d'améliorer notre technique, mais j'imagine qu'en athlétisme aussi.
Oui, exactement. Fait que probablement que t'en fais toi aussi là, avant tes trainings d'intervalle et tout ça. Là.
Ouais.
Fait que ça doit être assez semblable. Là. Souvent, on voit les coureurs là, s'échauffer, faire des pas chassés, des griffes au sol, toutes sortes d'éducatifs là, qu'on fait, là, puis tu sais, ça dure une dizaine de minutes, puis tu sais, on fait une coupe d'accel au travers, puis on se met prêt à pousser fort la machine pour le training, là.
Ouais, parce que commencer direct dans le rouge, c'est tellement tough, là.
Ah oui.
T'sais, mettons, faut que tu amènes tes pulsations hautes une couple de fois avant de commencer ton training, exact. Sinon, la première rep, là, c'est ça je trouve, là, la première rep te pète plus que la deuxième, c'est ça, exact.
Ouais.
Ça te pète plus que la deuxième, puis genre, ça te coûte tellement cher que la première rep soit dure de même, tu sais, alors que c'est supposé être la plus facile, dans le fond.
Exact.
Ouais. La course à pied, ça a cette spécificité-là que la natation n'avait pas, qu'il y a un circuit de course sur route qui est assez incroyable.
Oui,
si tu veux courir sur route, tu peux courir partout dans le monde, à tous les jours de l'année, mettons.
Ouais,
toi, la course sur route, c'est quoi la place que ça a dans ta pratique de sport actuelle, puis dans comment tu entrevois le futur maintenant que ta carrière de universitaire est terminée? Là?
Ben, la course sur route, c'est là où, pour moi, tout a commencé. Là.
Ouais.
Avec le cross-country, là, pas mal ensemble. Là, je faisais pas d'athlétisme avant de faire de la course sur route puis du cross-country. Fait que, tu sais, je veux dire, encore... Tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir en commençant... Tu sais, j'ai développé mon plaisir à la course à pied en commençant à faire de la course sur route. Fait que, je veux dire, à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir aller faire une course sur route qui cadre bien, tu sais, sans faire 10 par année, tu sais, je vais en faire une ou deux par année. Puis, pour moi, c'était un plaisir, c'est le fun. On dirait que c'est une ambiance qui est moins... On dirait qu'on ressent moins la compétition.
Mm-hmm.
Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui vient courir, vient se dépasser, va le faire dans le plaisir sans trop se stresser par rapport à son résultat, juste pousser la machine. Puis tu sais, des fois, on dirait que faut revenir un peu à ça pour apprécier les d'autres courses qu'on va faire en athlétisme, parce que là, on vise des temps, faut aller vite, faut, tu sais, on s'en va à, je sais pas moi, en Californie faire un faire une grosse course, puis là, on stresse tellement avec ça que ouais. ça revient les courses sur route, puis c'est le fun, c'est plus relax. En tout cas, pour certains, ils vont me dire, hey, c'est pas relax pantoute, mais tu sais, pour moi, je revois tout le bonheur, tu sais, de courir, puis le plaisir de s'accoter, puis de...
Puis que tout le monde se fait mal ensemble. Au même niveau, là, tu sais, mais la madame en arrière ou le monsieur en arrière se font aussi mal que toi, ça va être plus, ils se font plus, mal plus longtemps même, probablement.
Exact. Oh, oui, la madame qui va courir en 35 minutes, son 5 kilos, versus moi en 15-16 minutes, ben
c'est aussi ça, un challenge, ouais.
C'est exactement, je comprends qu'elle va courir plus longtemps, puis ouais. Elle va se faire mal, pas mal plus longtemps, là.
Ouais. Puis est-ce que, parce qu'il y a quand même l'aspect, tu sais, l'athlétisme, c'est au même titre que la natation, un sport amateur, là, un sport olympique, mais qui demeure un sport qui n'est pas un professionnel, mettons. Fait que, tu sais, l'avenue de gagner sa vie longtemps avec l'athlétisme, c'est quand même compliqué, puis il y a beaucoup d'appelés, puis il y a très peu d'élus, là, tu sais.
Exact. Ouais.
Mais la course sur route, pour quelqu'un de ton niveau, mettons, il y a quand même plusieurs avenues possibles de financement qui est quand même intéressant, plus que... Ben, tu sais, il y a des bourses, il y a plus de bourses, mais il y a aussi, du moins, de mon point de vue à moi, plus d'attention médiatique sur les courses de route. Puis l'attention médiatique, c'est souvent ce qui peut amener aussi des partenaires privés, des sponsors, dans le fond, tu sais, parce que c'est un sport qui est plus, qui touche plus de monde que l'athlétisme.
C'est là que tu vois un peu, tu sais, monsieur, madame, tout le monde va pas tant faire des courses à la piste,
mais, non, c'est
mais
ça, exact.
Ils vont aller faire des courses sur route. Exactement. Fait que c'est vraiment là que tu peux voir, wow, OK, elle ou lui, il se détache, il est bon, il est solide.
C'est ça.
Il fait la vienne faire la même course que la majorité du monde, on vient de faire le même parcours, mais viennent de la faire comme 5 minutes plus vite que tout le monde, tu sais, que la moyenne du monde, tu sais, je veux dire, c'est là que tu te fais vraiment remarquer par rapport à la masse, à la population, puis c'est ça qui fait en sorte que tu as plus, je pense,
de possibilités, là, ouais, là. C'est ça, puis tu as plus d'opportunités aussi d'affaires, là, tu sais, de commandites, puis ces choses-là. Toi, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse de comme aller plus vers la course sur route éventuellement, ou toi, tu te dis, moi, je pousse? En fait, c'est quoi, ma question, c'est plus largement, c'est quoi tes objectifs à moyen et à long terme dans les prochaines années, dans le fond? Puis où est-ce que tu vois ta pratique de sport se diriger, là?
Dans le fond, moi, je souhaite vraiment être compétitive dans le classement pour les Jeux de 2024 en athlétisme et 2028 aussi. Puis dans le fond, oui, ça fait beaucoup d'années d'ici 2024, suite surtout, mais mon but, c'est d'être le plus compétitif possible, toujours dans le bon, tu sais, dans le plaisir, en ayant les ressources financières. C'est certain que, je veux dire, ça faut que je puisse vivre quelque part, là.
Exact, exact.
Si je suis pas blessée aussi. Fait que, tu sais, si ces trois choses-là sont présentes, c'est certain que je vais me rendre jusqu'en 2028 minimalement. Après ça, ben là, je vais avoir 31 ans, fait que là, peut-être bien que je vais vouloir avoir des enfants, puis faire... plus de la course sur route, ou peut-être, tu sais, je sais pas, tu sais, je veux dire, je vais voir, mais c'est certain que la course, je veux garder ça plus possible près de moi, puis tu sais, longtemps, là.
Ouais.
Fait que j'ai l'intention d'en faire d'un bon niveau en athlétisme.
Ouais.
Jusqu'à temps que je sois pas tanné, là, que je sois heureux.
Jusqu'à temps que ça te tente de le faire, tu sais.
Oui, puis que mon corps va suivre.
Ouais, ouais. Puis est-ce que, j'ai posé la même question à Charles, parce que moi, je pense vraiment que les personnes qui partent de la piste puis de l'athlétisme, c'est ce monde-là qui deviennent les meilleurs marathoniens, là, éventuellement. Là, tu sais, genre, Eliud Kipchoge est arrivé deuxième sur 10 kilos sur piste aux Olympiques. Là, tu sais, fait que genre, le meilleur marathonien au monde, c'était un gars qui vient de l'athlétisme. Là, tu sais. Toi, c'est-tu quelque chose qui éventuellement t'intéresse, ou ça te parle pas du tout, mettons, allonger la distance jusqu'à demi, jusqu'à marathon?
Ben, jusqu'à marathon, je ne sais pas encore, mais demi, c'est certain que j'aurais goût de m'essayer. Sûr que j'ai des petits bobos qui, sur les longues distances, sans arrêter, peuvent, comme des engourdissements aux orteils, qui tendance à me freiner un peu, d'un marathon, ça risque d'être long. Ben, ça risque d'être dur à toffer, mettons, pour mes orteils. Fait que, mais non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, une fois que je vais avoir réussi à passer ça, c'est sûr que ça va m'intéresser de faire un demi, faire un marathon un jour parce que, je veux dire, tout le monde, tu sais, il y en a plein là, que l'objectif ultime quand tu commences à courir, ben, je veux faire un marathon.
Ouais.
C'est comme la distance que tous les coureurs se donnent finalement
en objectif.
Tu sais, en objectif, là.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça.
Puis c'est probablement vraiment plus facile quand t'as une biomécanique qui fonctionne bien, mettons, puis que les gens de track puis d'athlétisme ont une biomécanique qui fonctionne bien la plupart du temps. Là.
Ben oui.
T'sais, moi, je pars pas de là pantoute, fait que ma biomécanique est nulle à chier. Fait que genre.
Ben, le... mets-moi dans l'eau, là, ça va ressembler à ça.
Ben, tu vois, c'est ça, là, ouais. Tu sais. Fait que genre. Fait que c'est ça, on dirait que. On dirait que à chaque fois que je vois quelqu'un, mettons, sur piste, je fais tout le temps genre cette personne-là, le top speed est tellement vite qu'après ça, tu sais, t'as tellement de jeux pour faire un temps fou à demi-marathon ou marathon, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on te souhaite? On te souhaite la santé, premièrement?
Oh mon Dieu, oui, la santé. Je pense que si la santé est là, le plaisir va y être,
ouais.
C'est certain. Puis, ouais. Je devrais être en mesure de pouvoir courir vite après ça, là.
C'est exact. Si la santé est là, c'est là que les meilleures performances vont. C'est quoi l'objectif à court terme
cet été,
ouais?
Courir vite encore une fois.
Ouais, ça, c'est
mais non,
un
améliorer, mes temps certains, là. Je sais pas quand est-ce si je vais retoucher au steeple cet été, probablement, mais peut-être pas en commençant la saison parce que là, l'année passée, j'ai eu des petites craintes là, en ouais. étant blessée. Mais c'est ça, là, je vais certainement recommencer en force. Là, dès le 6 mai, je vais être en Californie à courir un 5000. Je vais viser faire dans les 15-30 quelques mm-hmm. au 5000. Fait que je serais vraiment contente pour ça. Un 1500,
c'est du
4-12-ish, 4-10 peut-être, on sait pas, on peut toujours rêver. Fait
ouais.
que on va voir. Là, aller vite, courir vite, puis sinon dans les équipes nationales, ben, il y a les mondiaux et tout ça. Fait que on va voir si je suis capable de me tailler une place. Là.
Et est-ce qu'il y a des records sur outdoor qui sont dans ta mire?
Ben au steeple, présentement, c'est moi qui l'ai. Si ouais. je peux l'améliorer, je serais vraiment
hein,
très
ouais.
contente. Au 5000, pour l'instant, c'est Mini Mondeur qui l'a. J'ai le mm-hmm. deuxième meilleur temps, mais mm-hmm. Mini Mondeur est en 14,59, fait que ça va être dur à aller chercher. Du moins, tranquillement, m'en rapprocher, ça va être déjà bon. Au 1500 mètres, je pense que c'est quelque chose comme 4,09 autour mm-hmm. de, là, sous toute réserve, là, à mm-hmm. plus ou moins une seconde. Là. C'est ça. J'aimerais peut-être ça aller chercher ça, ces records-là québécois-là. Ça serait cool.
Ça serait une bonne façon.
C'est un bon target, mettons, ouais. 1500 mètres, puis continuer de descendre aux 5000 puis aux 3000 steeples.
Très cool. Merci beaucoup de ton temps.
Ben,
c'était
merci
super.
Merci à toi. C'était cool.
Yes.